Saint.
Monsieur Louis, comment allez-vous?
Je vais très bien, vous-même.
Ça va très bien, merci.
Je me demande bien de quoi qu'on va parler aujourd'hui.
Ben, on va vous rendre hommage, évidemment, comme étant le seul au Québec qui croyait au retour de Carey Price. Il a très bien fait lors des matchs à Calgary et à Vancouver. Bravo.
Écoute, c'est deux matchs. C'est seulement deux matchs. Je pense qu'il faudrait qu'il nous le montre un peu plus, avec plus de régularité. Mais écoute, le match de samedi, pour ceux qui l'ont regardé, c'est sûr que le Canadien ne va pas chercher deux points sans Carey Price. Et je dirais la même chose contre les Flames de Calgary. Mike Smith a aidé la cause du Canadien jeudi,
ouais,
mais écoute, Price a montré de belles choses, a été très, très solide dans ces deux matchs-là, plus de 40 tirs en moyenne lors de ces matchs-là, les trois matchs dans l'Ouest. Le premier, évidemment, c'était Niemi devant le filet, mais je pense que c'est encourageant. Je pense que pour Carey, il peut revenir à la maison, c'est une grosse semaine, et rentre à la maison avec beaucoup de confiance.
Absolument, tu dis une grosse semaine, puis... c'était un de mes points sur lesquels je voulais m'arrêter. Washington ce soir, New Jersey mercredi, Buffalo vendredi et Boston samedi. Évidemment, je voudrais pas partir en peur. Un, parce que c'est pas mon genre, je voudrais pas faire ce que je reproche à d'autres. Sans dire que c'est une semaine déterminante, Louis, c'est quand même le genre de semaine où si tu gagnes 3 sur 4, tu es capable de convaincre tes partisans et d'envoyer un message aux quatre coins de la Conférence de l'Est que tu es sérieux pour faire les séries. Ici, à l'inverse, tu perds 3 sur 4. Là, y a des gens qui se mettent à douter de toi. Là.
Si tu perds 3 sur 4, tu es de retour un peu à la case départ. Parce que quand on regarde le classement, le Canadien, présentement, est en séries éliminatoires. Mais c'est toujours très précaire. Il y a tellement de parité. Tu regardes les Sabres de Buffalo. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est absolument incroyable de voir cette formation-là depuis le début de la saison. Une équipe qui est bourrée de talent, mais là, qui finalement commence à comprendre ce que ça prend pour gagner soir après soir. Et là, on arrive à un moment dans le calendrier, là, fin novembre, début décembre, où tu commences à grinder. Grinder, il faut que tu commences à vraiment travailler et gratter pour tes points. Ce qu'on a vu depuis le début de la saison pour le Canadien de Montréal, c'est qu'il y a deux trios qui ont été très réguliers. Les deux premiers trios du Canadien de Montréal font le travail depuis le début de la campagne, que ce soit celui de Philippe Dano, piloté par Philippe Dano notamment, avec Gallagher et Tatar, ils font le travail. Quand c'est pas eux, bien, c'est le trio de Drouin avec Domi, et puis là, on est rendu avec Andrew Shaw qui fait le travail. Ils réussissent à marquer des gros buts, ils réussissent à redonner espoir à leur équipe. Mais quand tu arrives dans une semaine comme celle-ci, selon moi, c'est là où, à un moment donné, il va falloir que tu aies de l'apport offensif de tes défenseurs. L'une des pires équipes, les Canadiens de Montréal, cette année, pour les buts qui proviennent de la ligne bleue. Alors, à un moment donné, tu vas devoir avoir besoin d'une aide de tes défenseurs. Tu vas aussi avoir besoin d'aide de tes troisième et quatrième trios si tu veux pouvoir compétitionner à tous les soirs. Évidemment, le gros 31, ton gardien de but, s'il fait pas le travail, ben là, ça vient de siphonner beaucoup d'énergie à ton équipe. Donc, on arrive à un moment crucial, pas juste pour le Canadien, mais pour plusieurs équipes en général, où là, les points que tu as mis en banque sont cruciaux, mais les points que tu vas aller chercher, et c'est tellement difficile mentalement, mais surtout physiquement quand tu joues aussi régulièrement, et ça va vraiment tester cette petite équipe-là.
Louis, tu parles du Canadien qui joue bien, puis c'est vrai que le Canadien va très bien actuellement, puis c'est le fun pour les partisans. Il y a une statistique qui m'intéresse particulièrement concernant le Canadien depuis le début de la saison, c'est qu'ils sont revenus 5 fois en troisième pour remporter un match. Il y a seulement les Flames de Calgary qui ont fait mieux qu'eux à ce chapitre, avec 6 retours pour des victoires. L'année dernière, évidemment, à pareille date l'année dernière, le Canadien était pratiquement sorti du portrait des séries, mais quand ça débutait 1-0 ou 2-0 pour l'autre équipe, la plupart des gens changeaient de poste ou disaient « Ah, ben là, le Canadien va encore s'incliner ce soir. » C'est le fun de voir une équipe, aussi petite en gabarit soit-elle, pouvoir démontrer du caractère puis revenir dans les matchs. Ça, c'est important aussi.
Une équipe extrêmement résiliente. Puis ça passe par quoi? Ben là, la première chose sur laquelle on les a fait travailler sur la glace au camp d'entraînement, c'était par le travail. L'année passée, tu as raison de le mentionner, l'année passée, là, souvent, 1-0 pour l'autre équipe, c'était essentiellement, on fermait les livres, c'était terminé. Là. Je veux dire, c'est une équipe qui s'est écroulée, qui ne réagissait pas bien devant l'adversité l'an passé. Mais cette saison, écoute, il y a plusieurs joueurs qui sont encore là, qui sont de retour, mais c'est une équipe qui réussit à trouver une façon à s'inspirer à l'un l'autre. Les joueurs réussissent à s'inspirer et on dirait on veut relever ce défi-là. Donc, ça démontre beaucoup pour moi, beaucoup de caractère d'une organisation et d'une équipe qui, l'année passée, s'est fait critiquer pour exactement ça. Donc, ça démontre l'importance de la chimie dans un vestiaire. Ça démontre l'importance que si tu veux te fier sur ton talent dans la Ligue nationale de hockey, tu as zéro chance. Tu n'as pas de chance, tu ne vas pas compétitionner, tu n'as aucune chance de gagner. Alors, le Canadien de Montréal n'est pas l'équipe la plus talentueuse. On en a souvent parlé dans cette chronique-ci. Mais au moins, ce qu'ils ont cette année, c'est on met l'épaule à la roue et tant qu'on n'a pas entendu la sonnerie à la fin du match, on continue de travailler et ça a donné des résultats extrêmement intéressants.
Comment t'expliques ça? L'arrivée de Dominique Ducharme, le départ de Pacioretty ou l'arrivée de nouveaux joueurs comme Tatar et Domi?
Un peu de tout. Je dirais que c'est un petit peu de tout ça. C'est aussi, je pense qu'il faut inclure Claude Julien là-dedans. Dominique Ducharme arrive, Luke Richardson arrive également. Il amène une nouvelle énergie aussi, de nouvelles idées, ça, il n'y a aucun doute. Mais ultimement, là, celui qui prend les décisions sur l'alignement, celui qui prend les décisions sur comment on va faire les choses, comment on va jouer, le plan de match et ces choses-là, c'est le coach. Alors, je pense qu'il faut donner du coach et beaucoup de crédit, c'est-à-dire à l'entraîneur-chef, à Claude Julien, parce que lui aussi s'est regardé dans le miroir cet été. Lui aussi s'est dit, c'est pas vrai que c'est juste le joueur, pis c'est pas vrai que c'est juste un tel et un tel, puis c'est pas vrai que c'est juste parce que Price ne faisait pas les gros arrêts au moment opportun. C'est un peu tout. Puis celui qui est le leader de cette équipe-là, c'est l'entraîneur-chef. Alors, si l'année passée, ça n'a pas levé, puis ça n'a pas fonctionné, ben lui, il doit prendre du blâme, parce que c'est lui qui est supposé donner le leadership à cette organisation-là. Après ça, les joueurs dans le vestiaire, ton noyau, sont supposés d'un peu retransmettre le message de l'entraîneur-chef. Alors, moi, je donne beaucoup de crédit à Claude, je donne du crédit, évidemment, comme tu l'as dit, les nouveaux venus, je veux dire, Thomas Tatar, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Son but sur en échappée samedi soir, c'est un but de toute beauté. Max Domi, inspiré, lui, de jouer devant une foule qui le reconnaît, une foule dans un marché de hockey qui était pas vraiment certaine. Il a fallu qu'il prouve, il a fallu qu'il démontre ce qu'il est capable de faire. Mais là, il est en train déjà de devenir un favori de la foule. Alors, pour moi, c'est vraiment un mélange de tout ça. C'est un gars comme Carey Price, dont on parle beaucoup, qui lui aussi revient avec une meilleure attitude, se disant, OK, moi aussi, j'ai des preuves à faire. Puis moi aussi, je dois démontrer que je suis capable de faire le travail. Il commence à le faire. Alors, mais ça a commencé par l'attitude. Ça a commencé par des vétérans qui sont revenus en disant, l'année passée, là, on oublie ça. C'était pas notre vrai visage. On va le montrer, c'est quoi notre vrai visage cette année.
OK. Je pense qu'en fin de semaine, vous êtes intéressé à votre match du samedi soir au dossier William Nylander. Le Canadien va bien actuellement et souvent on dit que c'est quand ça va bien qu'un DG doit améliorer son équipe parce que quand ça va mal, tu appelles les autres DG puis ils disent « Hey, c'est-tu quoi, j'ai Internet dans mon bureau, je regarde le classement puis vous êtes dans le trouble, fait que tu vas payer cher si tu vas avoir un de mes joueurs. » Est-ce que toi, tu fais partie des gens? Moi, je fais partie des gens, avant que tu te prononces, moi, je fais partie des gens qui pensent que le Canadien devrait s'intéresser à Nylander.
Je pense qu'il pourrait, oui, il devrait probablement s'intéresser à Nylander, mais moi, ma position là-dessus, c'est est-ce que tu dois aider ton équipe? Parce que là, présentement, ton équipe est en série. Est-ce que tu dois essayer d'améliorer les carences que tu as? Et pour moi, là-dessus, je mets un bémol, pas certain. Moi, je pense que tu es en train de bâtir de la bonne façon en donnant ce club-là et le redonnant aux jeunes. Tu as décidé de faire de la place au Kotkaniemi, puis aux jeunes joueurs comme ça, les Jolson, puis les Mété. Alors, pour moi, tu es dans la bonne voie. Tu as décidé de faire place à des jeunes que tu veux développer, des joueurs que tu as repêchés. Et clairement, quand on regarde la formule actuellement dans la Ligue nationale de hockey, ça, c'est la bonne formule. Alors, pour moi, tu ne dois pas sacrifier des joueurs que tu crois vont faire partie de ton noyau, des bons joueurs pour les années à venir. Mais est-ce que William Nylander est un joueur qui va t'aider puis qui va faire partie, pourrait peut-être être même un des joueurs les plus importants dans ton noyau, il n'y a aucun doute. Maintenant, j'ai eu aucune information que le Canadien s'était entretenu ou était actif dans ce dossier-là. En fait, je pense que c'est pas du tout le cas. Mais, je veux dire, quand tu as un joueur comme ça qui pourrait potentiellement être disponible, et comme Bergy le mentionnait en fin de semaine, lui a lancé des hypothèses, a dit, écoutez, qu'est-ce qu'ils ont besoin, les Maple Leafs, selon Bergy? Écoutez, est-ce que c'est de la défensive? Moi, je pense que les Leafs ont démontré qu'ils sont peut-être meilleurs défensivement qu'on pouvait le penser, mais si vraiment ce qu'on veut, c'est resserrer notre défensive et avoir un peu plus de leadership dans ce club-là, Bergy avançait le nom de Shea Weber. C'est le capitaine de l'équipe. Il n'a pas encore joué un seul match avec le C sur le chandail. Alors, je ne sais pas à quel point, honnêtement, c'est réaliste, mais pensez-y, Mike Babcock, il disait quoi de Shea Weber? Il l'a qualifié de son Man Mountain. Les éloges qu'il a fait à l'endroit de Shea Weber, avec qui il a gagné une Coupe du Monde, médaille d'or olympique et tout ça. Ben, écoutez, il le voit comme le genre de joueur autour de qui tu bâtis une équipe, parce que c'est un gars de caractère, c'est un gars de grande, un grand joueur, mais un gars aussi vraiment qui est un leader né, tout simplement, qui rend les autres autour de lui beaucoup plus imputables, mais meilleurs en même temps. Alors, écoute, moi, j'ai trouvé que le point à Berge est intéressant. Est-ce que ça va se concrétiser? Pas sûr. Je pense que ça serait peu probable. D'ailleurs, je serais même pas surpris rendu là où on est. Si les Maple Leafs disent, OK, on n'est pas capable de s'entendre avec lui, au lieu de faire une mauvaise transaction et de paniquer, quelque chose qui va venir nous faire reculer, on va bien présentement, si on n'est pas capable de s'entendre, il jouera pas ailleurs, il jouera pas chez nous, puis on se reparlera rendu au mois de juillet.
Ouais, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs que la date limite pour que les Landers s'alignent dans la Ligue nationale cette année, c'est le 1er décembre, et ça approche à grands pas. Je veux, avant de te laisser, je veux te parler de ton information de la semaine dernière au sujet de Patrick Roy. Patrick Roy dirige les Remparts. J'allais dire, on sait très bien. Je vais parler pour moi parce que j'ai pas l'impression que tout le monde à Québec pense comme moi. J'ai l'impression que Patrick ne sera pas ici pour 5 ans, pour 7 ans ou pour 8 ans. J'ai pas cru Patrick quand il a dit dans son point de presse qu'il se faisait un cadeau. Ça, c'était une ligne d'une agence de communication pour que ça passe bien et tout le monde a embarqué dans le panneau. Puis c'était la manchette des journaux le lendemain. Patrick se fait un cadeau. Patrick se faisait pas un cadeau. Patrick aime diriger une équipe de hockey. Puis là, il en dirigeait pas. Puis comme il n'y avait pas eu d'appel de la Ligue nationale, la seule option, c'était les Remparts. Ceci dit, tu as eu une information qu'il y a une équipe qui est intéressée à Patrick. Mais Patrick, quand on lui a demandé ça la semaine dernière à Québec, il a dit « J'ai reçu aucun appel ». Donc, est-ce que je vais déduire qu'une équipe de la Ligue nationale s'intéresse à Patrick? Ils en ont parlé à Louis-Jean, mais pas à Patrick Roy?
Non, l'équipe en a pas parlé à Louis-Jean. Écoute, et d'ailleurs, je savais que l'équipe avait pas contacté Patrick Roy. J'ai jamais avancé. C'est drôle à quel point, des fois, le monde commence à déduire, puis tout ça. T'essaies de protéger des sources. T'essaies de faire attention sur une nouvelle. Et je sais que lorsqu'on parle de Patrick Roy, ça va devenir très gros au Québec, à Québec. Et j'ai trop de respect pour Patrick pour essayer de lui envoyer ça dans les patins non plus, là, pour le faire mal paraître. Ce qu'on m'a dit, moi, et ça m'a surpris, c'était pas une source, c'était pas une personne qui était proche du tout ou qui a des liens avec Patrick Roy. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que il y avait une rumeur qui circulait dans les girons de la Ligue nationale de hockey. Okay. Et j'ai été vérifier cette information-là pour voir est-ce que c'est bel et bien vrai.
Oui.
Il y a eu une organisation qui a eu des discussions à l'interne. Et lorsqu'ils ont parlé d'entraîneurs, lorsqu'ils ont parlé un petit peu de leur avenir, ils se sont posé la question, est-ce que Patrick Roy serait pas le gars, au moment où on est actuellement, avec le groupe de joueurs qu'on a, est-ce que ça pourrait pas être le genre de joueur, d'entraîneur qui peut venir réveiller nos joueurs, okay, qui pourrait venir peut-être relancer un peu notre organisation?
Okay.
Et c'est ce que j'ai rapporté.
Ouais.
Maintenant, je l'ai précisé en ondes, je l'ai précisé aussi dans l'article que j'ai écrit au tvsport.ca, Dan. Patrick Roy, là, il est pas comme tous les autres entraîneurs. Patrick Roy, s'il va revenir dans la Ligue nationale de hockey, il va avoir des conditions particulières. Il va avoir un mot à dire sur qui va jouer, quand, comment. Parce que c'est comme ça qu'il est, Patrick. Il va avoir une organisation avec laquelle il croit avoir une chance de gagner aussi, et tout ça. Maintenant, tout ce que ça veut dire, c'est que si Patrick revient, il faut que ce soit des conditions idéales et parfaites. Je sais, et c'est la vérité, je le crois sincèrement, Patrick n'a pas eu de discussion avec une autre équipe dans la Ligue nationale de hockey. Je n'ai pas avancé qu'il allait revenir cette saison. Ce que j'ai dit, c'est que là où on est, il y a une équipe qui se pose la question, dans un bon marché de hockey,
oui,
est-ce que Patrick Roy pourrait peut-être être le gars qui vient donner un électrochoc à notre équipe? Sa passion, sa détermination et ce qu'il a fait dans le passé, c'est ça peut-être qu'on a de besoin. Maintenant, est-ce que cette équipe-là va décider d'aller de l'avant? Ça, c'est une autre chose.
Oui.
Est-ce que ça fonctionnerait avec Patrick? Ça, c'est une autre chose également.
Mais je remets pas en doute du tout ton information de la semaine dernière. Puis c'était un peu normal que Patrick réponde ça aux médias qui l'ont questionné.
Ben oui, exactement.
Mais Louis, moi, je pense que Patrick, de la façon dont il a quitté le Colorado, a perdu un peu de... pas de lustre, mais de pouvoir. Tu sais, on dit toujours, ah, Patrick, il va vouloir s'impliquer dans les décisions hockey, puis il va vouloir avoir sa carte d'affaires adjoint au DG comme il y avait au Colorado. Ben, moi, je pense que ça se peut aussi, t'as parlé de conditions gagnantes, ça se peut aussi que Patrick doive accepter un poste d'entraîneur-chef et simplement d'entraîneur-chef, parce que ça se peut qu'il n'y en ait pas de mots à dire dans les décisions hockey.
Oui, mais écoute, c'est alors là, ça devient une question de bon, est-ce que j'aime la situation, est-ce que je suis intéressé par l'offre et tout ça?
C'est ça.
Et Patrick va pas aller nulle part non plus. Là.
Non.
Je veux dire, Patrick va aussi choisir où il va aller travailler. Il n'y a pas besoin de ça. Et tu as mentionné le travail qu'il fait présentement avec les Remparts. Les Remparts de Québec, c'est une équipe qui est en reconstruction. On va se dire les vraies choses. Là. Je veux dire, c'est une équipe qui on s'attendait pas à ce que cette équipe-là ait une fiche, tu sais, gagne 75% de leur match cette saison.
Ça
donc il est revenu quand même parce qu'il y avait le goût. Il y avait le goût de s'investir. Il y avait le goût encore de se retrouver dans derrière un banc. Il y avait le goût d'essayer de redonner aux enfants puis de coacher. Il s'ennuyait et se trouvait probablement trop jeune pour rester à la maison puis d'aller golfer la moitié de l'année,
exact.
Même si pour toi c'est peut-être la vie parfaite. Alors ça, de ce côté-là, je respecte ça. Et ça va être vraiment, et comme je l'ai mentionné, ça va prendre des conditions parfaites pour marier et retrouver un Patrick Roy dans la Ligue nationale de hockey. Mais le fait que le monde commence à parler de toi, déjà, c'est quelque
bon.
Chose.
Oui, c'est
le fait
bon.
que soudainement,
oui.
des organisations oui. se disent peut-être que c'est lui, bien, c'est souvent comme ça que ça commence.
Pittsburgh et Edmonton, je ne sais pas si c'est des conditions parfaites pour lui, mais il y a des maudits bons joueurs de hockey dans ces équipes-là. À eux deux, à Edmonton et Pittsburgh, au cours des 16 derniers matchs, ils ont gagné seulement deux matchs. Ça pourrait être des options intéressantes si jamais changement d'entraîneur à ce niveau-là. Un gros merci, Louis.
Monsieur Danpo, toujours un plaisir. On se reparle lundi.
Parfait. Bonne soirée à toi.
Prie.
J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Honnêtement, c'est pour moi, c'est ce ne sont que des rumeurs. Puis j'ai pas eu aucun appel.
Nous le dirais-tu si t'avais des discussions?
Ben, je serais peut-être plus évasif. Mais maintenant que j'en ai pas eu, fait que c'est plus facile d'être direct, c'est sûr. Mais non, j'ai pas eu de discussion. Bon, un intérêt, ça dépend toujours des circonstances. Ça dépend toujours avec quelle organisation. Est-ce que j'écouterais une équipe de la Ligue nationale? J'ai toujours dit oui. Je veux dire, j'ai toujours pensé qu'écouter, c'est un signe d'intelligence.